Vous êtes sur Radio Escapade avec Bruno et son invité dans le studio pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine.
Écriture dessinée. L'œuvre d'Aline Kominsky-Crumb est peu connue en France. Son écriture dessinée est pourtant très tôt autobiographique. Elle fait partie de Comics des Women, revue underground aux côtés d'autres autrices comme Trina Robbins, Sharon Rudell et Lee Mars, pour n'en citer que quelques-unes. Avec Sacré Bunch, on dit Bunch ? Bon. Sous-titré « Bouffe, sexe, mort, douleur », Romance et joie, nous pouvons découvrir un ensemble essentiel des bandes dessinées d'Aline Kominsky-Crumb. Cette édition française de Love That Bunch, publiée à l'origine en 1990, rééditée en 2018 avec quelques histoires supplémentaires, a été possible grâce à la traduction de sa fille, Sophie Crumb, aidée par Jean-Pierre Mercier. Donc nous sommes, comme l'a dit Antoine, en studio avec Sophie Crumb. Bonjour,
bonjour.
Sophie Crumb. Alors, la programmation musicale, vous l'avez choisie, mm-hmm. mais c'est avec un de vos groupes mm-hmm. avec qui vous avez enregistré. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter déjà le groupe ?
Alors, c'est notre groupe qui s'appelle Millie and the Moochers, Millie's Moochers. Donc, c'est avec mon amie Millie Dolan avec qui je chante depuis longtemps. Notamment dans les soviets qu'on a joué ici il y a 10 ans, Radio Escapade. Et là, c'est avec Robert aussi, mon père, et deux autres super musiciens, Steven Harrison et Pascal Segar, au violon, Steven à la contrebasse. Et ce disque a été enregistré à Sauve en 2021. On fait beaucoup de vieille musique, country, un peu jazz, inspiré par la collection de disques de Robert. Hein. C'est clair.
Ça mériterait une émission oui. entière, mais... Une autre fois.
Et on peut retrouver ce CD à la Galerie Vido, la Sauve.
Voilà. Super, ça c'est donc noté.
Et on fait souvent des concerts aussi là-bas, dont le 1er mai, on joue. Moi, Millie et Robert, on joue le 1er mai à Sauve, à la Galerie.
Pour les 20 ans de la Galerie.
Oui, tout à fait.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Oui.
Alors, revenons à Sacré Bunch. Comment s'est décidé cette traduction ? Est-ce que l'association vous a sollicité tout de suite ?
Alors, ils m'en ont parlé, il me semble, quand ma mère était malade sur la fin de sa vie. Et on a discuté avec Pascal de l'association, qui est le nouveau patron, on va dire, de l'association. Et on a entretenu cette idée. Pendant quelques mois, on a discuté. Puis, ma mère était très malade, elle nous a quittés. Et après, on en a reparlé. Je l'ai fait un an après sa mort, la traduction.
Alors, c'est un chantier ?
Ouais. Ouais.
Est-ce que vous
carrément.
Pouvez nous
c'était
parler de ce
chantier ?
Un chantier,
pour le dire poliment. Parce que non seulement je me suis refait toute sa vie, de A à Z, avec tous les détails croustillants et voilà, qu'on peut imaginer, donc avec des choses un peu violentes, un peu traumatiques, très drôles, donc tu pleures et tu ris dans la même page, quoi. Et puis quand je traduis, j'entendais la voix de ma mère dans ma tête qui parlait. Parce qu'elle a un langage en anglais qui est complètement phonétique, complètement plein de dialectes new-yorkais, juifs, argot années 60. C'est vraiment assez compliqué à traduire en français. Donc je dirais même que c'est même pas une traduction, c'est une adaptation. J'ai fait du mieux que j'ai pu, parce que parfois on est obligé de perdre certaines miettes comme l'accent new-yorkais, par exemple. Au lieu de dire artist, elle dit artist. Mais ça, comment tu fais en français ? Donc j'ai traduit par artiste, parce que et j'ai fait une intro au début du livre où j'explique que écoutez les gars, j'ai fait du mieux que j'ai pu, on a perdu quelques miettes en chemin parce que je voulais que ça reste lisible pour les Français. Quoi. Je voulais qu'ils aillent jusqu'au bout parce que déjà que c'est vraiment très dense.
Je voulais pas mettre de l'underground.
Hein, voilà, je voulais pas mettre des astérix partout pour dire oui bon là en fait c'était un dialecte machin. Donc j'ai quand même été obligé de simplifier, beaucoup. Enfin beaucoup. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Après j'ai envoyé ma première version à Jean-Pierre Mercier qui était un ami de la famille, à Angoulême et tout ça.
Artefact et qui était...
Un grand monsieur.
Scientifique du musée d'Angoulême.
Voilà. Et je le connais très bien depuis très longtemps. Il connaissait très bien ma mère et il parle très, très bien anglais. Et donc, lui, il me refaisait quelques petites corrections mais il me les mettait en jaune. Et après, il fallait que je me refasse les 211 pages et je choisissais de garder voilà, son option ou pas. Donc après, je lui renvoyais. Donc on a fait plus ou moins 4 vérifications. On se les fait 4 fois à chaque fois, le truc. Et après, je l'ai envoyé à l'association qui ont un lettreur de malade, qui s'appelle Jean-François Rey, qui est un malade mental, qui a créé, je dirais, une dizaine de typographies inspirées par le lettrage d'Aline, et qui les a fait rentrer dans ces petites bulles-là. Parce que l'anglais, ça prend moins de place que le français. Donc il s'est débrouillé pour que tous ces mots rentrent dans ces millions de bulles. Et je crois qu'il ne peut plus voir cette BD. Il ne peut plus jamais la regarder. Alors, mais bravo à lui aussi, il en a fait un sacré boulot.
Pour information, ça a été le lettreur de Zap Comics, de la réédition.
Ah bon ?
Et il a fait ça, mais pas de la réédition qu'il y a quelques années.
Vous en savez plus que moi.
Ah bah, j'ai fait un entretien avec lui parce que je trouve son travail assez remarquable.
Ah bah, c'est phénoménal. Mais je crois qu'il a fait les 100 premières pages en 2 semaines. Et les 102e pages en 6 mois. Les 100 dernières pages en 6 mois. Donc, il a fait un sacré boulot.
Alors, si on reprend, déjà, puisqu'on est en train de parler de Jean-François Rey, est-ce qu'il y a eu un aller-retour avec lui ? Comment ça s'est passé ?
Je suis passée plusieurs fois dans les locaux de l'association à Paris. Il me montrait les différentes fontes. Moi, je disais, ouais, c'est super, parce que moi, j'avais fini mon boulot et je trouvais que tout ce qu'il faisait, c'était parfait. Puis parfois, il m'envoyait des mails avec marqué, là, t'as pas marqué si c'est gras ou gros. Je disais, mais gros, c'est bon. Il est très, très pointilleux. Il m'envoyait des milliers de mails avec, là, t'as oublié de traduire, hi-hi-hi, est-ce que je garde hi-hi ? Oui, garde hi-hi. Ça en finissait jamais. Je me dis, on va jamais y arriver au bout de ce truc, parce que pour ceux qui connaissent pas la BD de ma mère, c'est des pages hyper denses, avec des millions de petits traits, des millions de mots, des millions de bulles dans tous les sens. Donc c'est vraiment un casse-tête pour les traducteurs et les lettreurs. On a réussi.
Et donc alors, à part ces mails où ils questionnent, est-ce qu'il y avait une validation pour les pages ? Est-ce que, y a eu des moments où c'est vous qui faisiez le retour, ou tu, je ne sais pas, on peut se tutoyer peut-être. Rarement à l'antenne,
Non, mais il m'envoyait au fur et à mesure, et moi je validais, mais tout était parfait ce qu'il faisait. Il n'y avait rien à dire du tout. Parce que j'étais allée au bureau, et puis il me disait, je vais mettre un petit, gratter un petit peu d'espace pour pas que ça bouffe la tête du personnage. Je dis, vas-y, je te fais confiance. J'ai compris qu'il était tellement pointilleux et perfectionniste que je lui ai entièrement fait confiance et j'avais raison, parce qu'il a fait un boulot parfait. C'est incroyable.
C'est vrai. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a une question de l'intimité. C'est de l'autobiographie. Ça a marqué d'ailleurs un grand nombre de femmes derrière. C'est difficile de replonger là-dedans, dans cette intimité-là, qui est peut-être...
Non, parce que je connaissais déjà, j'avais l'habitude, mais en fait, ce que ça m'a fait, c'est que je me suis rendu compte de la quantité de boulot que ma mère avait fourni, en fait. Parce que ma mère, quand j'étais jeune, c'est elle qui faisait tout. Robert dessinait, puis elle faisait les courses, le ménage, les trajets, pour aller au cours de piano, machin. Et je la voyais moins dessiner que lui, tu vois. Et finalement, quand je regarde son œuvre, j'étais prise par « Waouh !» En fait, elle a fait énormément. Et j'avais lu toutes ses BD, mais peut-être pas aussi en détail chaque mot, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu un renouveau de respect, d'admiration envers elle, pour son boulot, et pour chaque détail. J'avais peut-être survolé quelques pages, quoi, mais j'avais tout lu, mais pas aussi en détail.
Parce que là, il n'y a pas toutes les bandes dessinées d'Aline.
Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en ai retrouvé là dans les archives des qui n'ont jamais été publiées. On va les exposer à la galerie Vidol le 1er mai.
On en reparlera.
Oui.
Et est-ce que des moments, c'est troublant de traduire comme ça la vie de sa mère ?
Non, parce que disons que je connaissais déjà. Après, il y a des passages qui sont trash quand même, qui sont difficiles, que je connaissais déjà. Mais c'est surtout l'avoir fait un an après sa mort, c'était vachement émotionnel pour moi. Donc ça m'arrivait de rire et de pleurer très souvent dans la même page, où elle me faisait rire parce que souvent elle rigole de ses malheurs, elle rigole des trucs trash, elle rigole d'elle-même tellement que c'est touchant. Ça m'a rapproché d'elle encore plus, alors qu'elle n'était plus là. C'était très fort, mais ça ne m'a pas choqué parce que j'étais déjà habituée à tout ça. Mais ça m'a renouvelé mon respect, mon admiration envers elle, on va dire.
Tu es d'ailleurs présente dans les pages, tu apparais...
Eh oui, la petite peste. Je suis toujours.
Ouais. On va faire une première pause avec un premier morceau. Donc,
ouais.
Allez, c'est parti.
Wouhou.
Sophie Crumb, Aline, votre mère, a eu une importance grande, très grande, dans la bande dessinée aux États-Unis et dans la bande dessinée underground. Parce que, alors, il y a eu des hommages à Trisha Robbins. Trina Robbins, au moment de la publication de Garçon, par exemple. Il n'y a pas eu d'équivalent pour Aline, alors qu'elle a participé à Comics de Women, qui est quand même une série, une revue qui a duré 20 ans.
Women's Comics.
Voilà, alors ça a été traduit comme ça.
Comics de women.
C'est ça.
Ben non, il n'y a pas grand-chose pour elle. Je suis d'accord. On attend toujours.
Est-ce que ça peut aider un sacré bunch?
Ben ça aide pour la France en tout cas. Vraiment, parce que d'un coup, tous ces fans sont sortis de derrière les rideaux, comme on dit en anglais, que je ne savais même pas qu'ils existaient ici. En fait, ils ont dû lire ces BD en anglais, ce qui est quand même balèze, parce que ce n'est pas évident à lire pour un Français en anglais. Et je ne sais pas, dès que cette BD est sortie, ils sont tous apparus. À Angoulême, j'en ai rencontré plein, des fans d'Aline, et j'étais étonnée. Mais vous avez lu ces BD en anglais? Mais oui, on adore des jeunes femmes de 30 ans, qui sont ultra fans d'Aline. Je peux parler des filles de FFF?
Mais oui, allons-y. Donc c'est une bonne transition.
Voilà. C'est des jeunes dessinatrices de Marseille, des jeunes très douées, qui ont fait un fanzine qui a reçu un prix à Angoulême, je ne sais pas lequel. Et leur BD, c'est FFF, c'est Fanatique Female Frustration. Donc ça, c'est sorti d'une BD d'Aline. Voilà. Et elles ont fait une BD totalement inspirée par ma mère. Moi, j'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. Ça m'a émue, dont une qui s'appelle Lucille Ouvray, qui a fait une BD sur à quel point sa mère ressemble à ma mère. C'est des jumelles. Voilà. Et cette BD, ça m'a complètement sidérée, complètement émue. Et j'étais là, mais je savais même pas que ça existait, ça, en France, du tout. Donc, c'est des filles qui ont lu les BD d'Aline en anglais et qui ont été vraiment, vraiment marquées, touchées par les BD d'Aline, bien plus que celles de Robert, par exemple. C'est vraiment un truc de femme, là. Je les ai rencontrées à Angoulême, c'était génial. Et là, elles sont venues à Sauve. Et là, elles reviennent à Sauve le 1er mai pour dédicacer leur BD à la galerie, donc aux côtés de celle d'Aline, qui est à vendre à notre galerie aussi. Et elles exposent des planches originales de leur BD, dont la BD où sa mère ressemble à ma mère, à côté des planches originales de ma mère, qui datent des années 70, qui n'ont jamais été publiées. Donc celle-là, c'est une super expo à venir voir, parce que la jeunesse, la nouvelle génération de dessinatrices féministes et drôles, vraiment inspirées par Aline, et des vieilles planches d'Aline qui sont particulièrement drôles et gratinées, qui n'ont jamais été publiées ni vues par personne.
Ça doit être émouvant.
Je suis allée fouiller dans les archives, et puis elles, quand tu vois la réaction des filles, quand je leur montre les originales d'Aline, elles sont comme ça, quoi. Pour moi, c'est hyper émouvant et touchant. Et ça me donne de l'espoir, quoi. Je me dis, je ne suis pas toute seule à soutenir l'héritage de ma mère, quoi, dans mes bras. Il y a quand même des gens autour ici en France qui sont des grands fans d'elle. Ça m'a vraiment ému à Angoulême, ça. Ouais.
Il y a quand même en France une communauté underground, par exemple à Montpellier.
Oui, mais c'est surtout des mecs.
C'est vrai, c'est pas faux. Oui. Bah, il y a Tanks, par exemple, qui...
Oui, je la connais depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai.
Qui est quand même...
Ouais, c'est vrai. Tanks, elle détonne un peu, quoi. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, je ne suis pas trop dans le délire Pénélope Bajou et compagnie, tu vois.
Ouais.
Mais c'est vrai que les filles de Marseille, pour moi, c'est la nouvelle génération. C'est neuf, c'est nouveau. C'est quand même inspiré par les vieilles de la génération des années 60, quoi. C'est génial. Donc, elles sont hyper cultivées.
Alors, par rapport à Sacré Bunch, la question juive est importante.
Oh oui.
Alors, ça se traduit comment à tous les sens du terme, dans la vie quotidienne, mais aussi dans la traduction de...
Dans la vie quotidienne d'Aline, tu veux dire?
Oui, et puis un peu de la tienne, dans la mesure où...
Bon, la mienne, pas trop, mais...
Ça n'a pas joué.
Bon, déjà. Si, j'ai hérité un peu de ce côté-là de ma mère, mais c'est vrai qu'elle, quand même, là où elle a grandi, c'est des communautés juives à Long Island, à New York, où c'est des quartiers de juifs qui viennent d'Europe de l'Est, depuis quelques générations, ils sont déjà aux États-Unis, et... Elle est terrible avec eux, parce qu'ils sont très matérialistes, très « que va penser le voisin, c'est notre gazon, il est comme ci, comme ça ». Il faut monter, quoi, il faut monter dans la société tout le temps. Et elle est implacable avec eux dans ses BD, parce que ses parents étaient des gens pas très spirituels, des gens assez matérialistes, pas très sympas, hyper dysfonctionnels. Et il y a énormément d'argot yiddish, et ça parle des mamés, ça parle de la bouffe qu'ils mangent aussi, de la cuisine... et de ses grands-parents qui ont joué un grand rôle dans sa vie, qui étaient des gens un peu plus raffinés, doux que ses parents. Et donc, elle passait beaucoup de temps chez eux où tout était encore années 20-30. Et je pense que ça l'a marqué. Parce que c'était la douceur, c'était les vieilles choses. Et ses parents voulaient que des villas modernes, avec tout moderne, tout moche, etc. Elle détestait ça. Donc, heureusement qu'il y avait ses grands-parents qui l'aimaient, qui étaient doux et qui lui donnaient 25 cents pour aller acheter le gâteau chez le boulanger juif du coin. Donc, c'est vraiment imprégné par la culture juive new-yorkaise de cette époque. Qui était fort, parce que c'est une communauté. Donc, ils vivaient tous dans le même quartier.
Elle est très dure. Elle a des pages très dures et des remarques très dures sur ses parents, sur son père, quoi.
Ah, oh, mais il était horrible. Il était vraiment horrible, ce mec. Je l'ai jamais connu, mais... C'est sûr que là, elle n'est pas tendre avec lui, hein. C'est vrai. Mais parfois, il lui fait un peu pitié. Parfois, elle a « Oh, le pauvre !» alors qu'il est mais atroce avec elle. Il lui disait, quand elle se maquillait, quand elle avait 16 ans, il disait « Tu peux pas cacher la merde, quoi. Tu peux pas... » Enfin, c'est horrible, il disait des trucs atroces. Et sa mère était pareille aussi, hein. Sa mère l'a envoyé faire des colonies de vacances pour filles grosses, où elle apprenait à voler des sneakers en cachette, puis elle rentrait encore plus grosse, et sa mère... T'es encore plus grosse que... Voilà. Ils étaient... ses parents étaient... Ouais, des sacrés personnages dysfonctionnels.
Tu en as parlé beaucoup avec Aline de ses parents?
Ma mère
en
parlait beaucoup. Mais je l'ai connue, ma grand-mère. Je l'ai connue, ma grand-mère. Donc quand elle parle de Blabette, sa mère, qui avait une bouche, comme ça, elle était réellement comme ça.
Il y a quelques portraits, notamment à l'introduction du livre, il y a un portrait de sa mère.
Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vérité là-dedans quand même. Hein. Ma grand-mère avait une bouche, elle parlait blablabla comme ça. Et elle était très superficielle, matérialiste, et puis elle n'écoutait pas ce qu'elle voulait qu'il soit comme ça, comme ça. Elle n'était pas très, on va dire, spirituelle, évoluée comme personne. C'est très basique, matérialiste, et sur l'apparence, tout sur l'apparence. Et, ma mère, heureusement, a réussi à fuir de tout ça.
On sent que c'est un combat. Mmh. De cette fuite, qui a aussi beaucoup de doutes.
Mmh. Mais ouais.
C'était une personne qui doutait beaucoup, Aline ?
Ouais, mais je pense qu'elle avait quand même toujours en elle une volonté et une force d'artiste qui voulait changer, qui voulait avoir une vie différente. Elle avait quand même en elle une force que je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça que j'admirais quand j'ai traduit sa BD. Je me disais, mais comment elle faisait avec cette famille qui faisait que la... repoussée vers le bas, elle a quand même, elle savait qu'elle voulait être artiste depuis toute petite. Elle arrivait à trouver la force d'aller jusqu'au bout de son rêve, même si elle était dénigrée, maltraitée, insultée, repoussée toute sa vie finalement, par tout le monde, par les profs des Beaux-Arts, par son père. Voilà. Elle a quand même réussi à, avec une force incroyable, continuer dans sa propre voie, elle, malgré tout, malgré et contre tout. Et ça, je l'ai bien compris en traduisant aussi. Bravo.
Est-ce que dans le Sophie Crumb, est-ce que dans la traduction, est-ce qu'il y a des choix particuliers de mots pour que s'exprime ce combat, cette opposition et cette volonté de s'affirmer ? Est-ce qu'on pourrait faire, parce que c'est un peu le principe de la traduction, il peut y avoir différentes tonalités, différents timbres. Est-ce qu'à des moments, ça s'est posé, cette question-là, d'appuyer ou de...
Non, parce que c'est tout dans le blablabla avec ma mère. C'est dans la surcharge de mots et d'anecdotes et d'expressions et de petits commentaires, petites bulles. C'est pas dans une phrase que quelque chose s'exprime, c'est sur le blabla général. C'est sur l'effet fouillis général que tu vas ressentir quelque chose. C'est pas par un mot particulier. Non, c'est en... En lisant la BD en entier, on commence à se rendre compte de sa force, de se rendre compte de sa force, vraiment. Qu'elle avait ce chemin à elle qui était tracé. Elle avait la force d'y aller jusqu'au bout.
Parce qu'il y a des moments où elle est, on profite d'elle, en fait. Mm-hmm.
Complètement.
Et
elle arrive à en rire, en plus. Et ça, c'est vraiment l'humour juif aussi. On rigole de soi-même, on se moque de soi-même. On se moque de sa laideur, de sa vulgarité aussi. Donc, parce qu'elle a quand même en elle l'héritage familial, quoi, qui est un peu vulgaire, un peu humour de quartier, un peu, tu vois. Et ça, elle en joue vachement aussi, mais ça ajoute une qualité drôle à ses BD. Elle se moque d'elle-même, avec cet humour juif qui est implacable aussi, envers elle-même. Parce qu'elle vient quand même de cette famille, quoi, de cette culture.
On écoute un peu de musique, Sophie. Ouais. Tu nous présentes le morceau suivant.
C'est un vieux jazz des années 20, inspiré par les disques de Robert, enfin qu'on a puisé dans la collection de mon père.
Allons-y.
Go away, and now I dream about you night and day. I'm an happy shop, if I could be with you, I'd love you all night long. I'm telling you true, you'd be anything but blue. If I could be with you for just 1 hour, if I could only be with you.
Sur Radio Escapade, dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct et en studio avec Sophie Crumb à l'occasion de la traduction du livre qui est un recueil des histoires d'Aline Kominski-Crumb, d'une partie des histoires, l'essentiel, qui s'intitule Sacré Bunch. Alors,
édition de l'association.
Édition de l'association. J'ai toujours rappelé à la fin, il n'y a pas de problème. En plus, c'est un très beau livre qui est très bien réalisé.
Il est plus beau que la version américaine. C'est nous qui avons décidé de le mettre en rouge. Et c'est nous qui avons décidé de l'appeler Sacré Bunch, parce qu'on voulait l'appeler Love That Bunch. Comme après, avec Robert, on a eu un moment de... Oh, mais non, Sacré Bunch, mais oui, parfait. Et ils étaient contents, les mecs de la sauce. Et Robert a refait une écriture, du coup, là. Il est un peu plus petit que la version originale, il est plus beau. Et j'ai mis des vieilles photos d'elle et de sa famille dedans aussi. Je trouvais que ça manquait quand on lisait le livre. On avait envie de voir des photos de ses grands-parents, de son père,
de sa
diable
mère.
Et de sa mère, ce monstre. Et donc, parce qu'il y avait que des... Elle avait fait un collage de photos de mes enfants, tout ça, qui n'avait vraiment rien à faire là-dedans. Et donc j'ai mis une collection de vieilles photos noir et blanc qui sont dans la version française, que je trouvais que ça manquait dans l'autre. C'est beau.
On trouve beaucoup plus de photos dans Need More Love.
Oui, mais c'est des photos que ma mère a choisies qui n'ont pas spécialement non plus à voir avec son œuvre, quoi. Elle met des photos de sa copine, de la nièce de son copain, enfin, c'est bon. Mais là, tu vois, on a mis des vieilles photos de elle, de ses parents. C'est très joli.
Est-ce que tu peux nous parler de Bunch, du surnom de... Comment ça se traduit en français, ça ?
Alors, c'est marqué dans le livre, mais
oui,
je peux le dire.
C'est l'introduction.
Alors, bunch. Honey bunch, en anglais, ça veut dire bouquet de miel ou chérie d'amour, un truc comme ça. C'est un surnom de tendresse, mais un peu vieillot, des années 20.
Et Honey Bunch, c'était un personnage.
Alors, Robert, il avait une personnage de ses BD qui s'appelait Honey Bunch Kaminsky, avec un A et avec un I à la fin. Et donc, il a rencontré Aline à San Francisco en 72, et tout le monde a dit « Dis donc, tu ressembles à Honey Bunch Kaminsky, c'est incroyable !» Et en plus, elle s'appelle Kaminsky. Donc, elle a commencé à s'habiller comme le personnage de Robert, à mettre des chaussettes, et tout le monde l'appelait Honey Bunch. Et au bout d'un moment, ma mère a dit Il y a un mec qui est passé chez eux et il a dit, alors Bunch, ça va? Elle a fait, ah, je préfère Bunch que Honey Bunch, parce que je veux pas non plus être un personnage de Robert. Donc Bunch, ça me va très bien. Donc elle a détourné un peu le surnom pour en faire un truc un peu moins neuneux et mignon, qui lui va très bien.
Et Bunch, ça veut dire le paquet,
ouais,
selon
paquet,
ce que je lis.
Un paquet. Mais c'est un surnom qui a été dérivé et qui finalement lui allait comme un gant. Oui. The Bunch.
Il y a des chaînes narratives, si on peut dire, qui courent tout au long de l'œuvre, mm-hmm. comme par exemple le rapport au poids.
Mm-hmm. Ça, c'est... Ah bah oui. Ses parents, ils l'ont bien rendu névrosée avec ça, la pauvre. Toute sa vie, elle a galéré avec ça. Enfin, elle a été obsédée par ça. C'est une vraie névrose. Les régimes, puis après, un peu de manière boulimique, puis toujours re-régime. Beaucoup de sport aussi. Elle était obsédée par son image, ma mère aussi, par son corps. Il fallait être forte, il fallait être belle, il fallait être costaud, il fallait être séduisante tout le temps. Et quand on lit ses BD, on n'est pas étonné qu'elle ait une névrose par rapport à ça. C'est sa mère qui l'a envoyée dans des colos pour grosses. Enfin bon. Ouais. Je pense que toute sa vie, elle avait du mal à se trouver belle, alors qu'elle l'était. Et qu'elle voyait toujours cet ado moche que son père disait « Laisse tomber, tu peux rien faire avec ton maquillage. » Tu vois, et c'est... Elle était pourtant dans la séduction, mais je pense qu'elle se trouvait moche toute sa vie. Bah, il suffit de voir comment elle se dessine, quoi. Elle se dessine parfois comme un truc... on dirait que c'est de la pâte à modeler, quoi. Et pourtant, elle était très belle. Mais c'est vraiment... ça vient de son enfance. Ça...
Il y a le sexe aussi, mm-hmm. qui est aussi une chaîne narrative importante. Ça te fait faire l'amour, ce film.
Ouais, bon.
Non, bon, on glisse, on passe sur autre chose.
Non. Ça
parce que c'est. Alors, d'y poser autrement la question, c'est par rapport au féminisme, par rapport à l'émancipation des femmes, c'est quand même une conquête d'un espace de liberté de pouvoir parler vraiment de la sexualité comme ça.
Oui, oui. Puis elle en parlait crûment et de manière. Politiquement incorrect, c'est-à-dire qu'elle avait rencontré les féministes à San Francisco dans les années 60 qui lui ont dit « Mais pourquoi tu te dessines comme ça? Mais pourquoi tu dragues des machos ?» Là, ma mère disait « Mais moi j'aime bien quand même me prendre des fessées, tout ça. » Oh, elle était choquée, il fallait que ça soit hyper féministe, hyper correct, et ça, moi, ma mère, ça l'a saoulée, ça. Donc c'était pour moi une vraie féministe, dans le sens où elle racontait ses fantasmes qui n'étaient pas spécialement féministes, quoi. Voilà, qui étaient des fantasmes, point, tout court, et elle faisait avec une grande liberté, tellement crue, tellement que c'était presque gênant parfois pour certaines personnes à lire. Mais moi, je trouve ça génial. C'est vraiment authentique et pur. C'est purement elle. C'est la vraie liberté d'une femme qui s'exprime. Donc, c'est du féminisme. Et les autres qui avaient des carcans, des discours, des manières de faire, voilà, n'étaient pas très rigolotes, finalement.
Alors, dans le livre Sacré Bunch, il y a donc ces histoires qui ont été écrites après la première édition, mm-hmm. et notamment le passage, l'arrivée en France, mm-hmm. Mm-hmm. avec un moment, elle dit qu'elle est une grand-mère apaisée.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai, elle était très contente d'être mamie, c'est vrai.
Et c'était donc... un moment où ça... Alors, elle parle vraiment de son amour pour la France. Alors, ça commençait par Paris. Et puis, Robert disait non, pas une grande ville. Et ils sont arrivés donc dans le sud.
Mm-hmm. Mais parce que son père, à ma mère, adorait Paris. Parce que c'est le meilleur moment de sa vie qu'il a passé, c'était à Paris quand il était photographe pour l'armée pendant la guerre. Donc, il lui a toujours parlé de Paris. Paris, c'est génial, Paris. Ils avaient une espèce de légende familiale sur la France. Un mythe. Ma mère, elle voulait vivre comme une bohémienne à Paris, boire du vin, fumer des cigarettes en terrasse. Elle avait un vrai fantasme sur ça. Et après, ils ont découvert Sauve, et là, pour eux, c'était un choc esthétique. Complètement... Et puis, à l'époque, c'était les vieilles maisons avec les vierges, la cheminée, le papier peint. C'était pas cher. Ils ont flashé, complètement flashé sur ce village. On avait des amis, on se sentait bien à Sauve. Même moi, je me sentais bien à Sauve.
Tu avais quel âge quand tu es arrivé à Sauve?
9 ans.
Oui, c'est jeune.
Et je suis toujours là.
Donc, la transmission s'est bien faite. Alors.
Oui, je suis parti, mais je suis revenu.
Robert a dessiné des vues de Sauve qui sont mm-hmm. assez étonnantes,
ouais,
d'ailleurs.
Elles sont belles.
On comprend qu'ils aiment tous les deux.
Ah oui, il choisissait des Porsches avec des petites rues un peu défoncées, pas forcément les plus jolis coins, sauf il choisissait des coins un peu où la rue était un peu défoncée sous un Porsche, mais c'est beau, c'est beau. C'est un peu gothique, sauf des petits coins sombres, des ruelles comme ça.
Est-ce que dans le texte lui-même, il y a vraiment un changement de ton avec l'arrivée en France ?
Dans la BD d'Aline ?
Ouais.
Oui, on sent qu'elle est en train de vivre sa vie rêvée. Et en même temps, elle garde toujours ses névroses et son humour juif. Et elle est quand même un petit peu en décalage avec la culture latine du sud de la France, dans laquelle moi j'ai grandi. Mes parents ne se sont jamais vraiment intégrés dans cette culture locale du sud de la France. Quand même, si, ma mère, elle était intégrée dans le village, mais elle a quand même gardé cet humour juif et son recul sur les choses. Mais elle était mieux qu'aux États-Unis, ça c'est sûr. Elle était plus heureuse. Ah oui.
Dans le livre, ces histoires sont même dans la continuité graphique des précédentes. Peut-être un peu moins de texte, mais quoique. Et est-ce que Sophie Crumb, j'ai perdu le fil, moi aussi. Oui.
Moi, je trouve que ça a changé un peu le style.
Est-ce qu'elle a toujours continué à dessiner, à faire des histoires ? Il y avait les histoires faites à quatre mains avec Robert pour Werdo. Est-ce qu'il y a eu donc un livre chez De Noël Graphique, Parlez-moi d'amour, qui reprenait ces histoires ? Il y a toujours eu comme ça un travail narratif et graphique ?
Elle avait des phases où elle dessinait, puis des phases où elle ne dessinait pas pendant des années, des phases où elle était plutôt dans les aquarelles. Ma mère faisait aussi de la peinture à l'huile, acrylique. Elle faisait des collages, elle faisait plein de trucs. Ça serait bien de faire une rétrospective avec toutes ses œuvres. J'attends. Mais bon, là, on va exposer aussi ses BD à Paris, dans un festival de BD qui s'appelle Formula Bula, en septembre. Ouais. Et ils sont venus regarder les archives, là, à Sauve. Et je suis très contente parce qu'ils vont exposer plein de planches de BD à elle. Mais elle ne fait pas que de la BD, elle faisait aussi des aquarelles magnifiques, des tableaux rose philo immenses qui représentaient des poupées en train de se violer, enfin, des trucs complètement...
Trash.
Un peu. Trash avec le côté Barbie trash. Et des magnifiques aquarelles aussi, plein de styles différents. Mais moi, je l'ai vu toujours dessiner on et off, mais toujours en train de faire quelque chose. Soit elle faisait du yoga, elle était prof de yoga, soit elle s'occupait de moi, soit elle s'occupait de tout. Parce que Robert ne faisait que dessiner, donc vous pouvez imaginer tout le reste qu'il y avait à faire pour gérer cet empire. Crème. Donc elle trouvait quand même le temps de peindre, de dessiner, d'organiser une galerie, de... Mais la BD, elle en faisait quelques années, puis elle s'arrêtait à une BD là, vers la fin, qu'elle a arrêtée pendant 14 ans. Et après, elle l'a reprise. Donc, c'est la maison des rêves, la maison de mes rêves. Elle est chouette, cette histoire-là.
Quelle importance a eu la publication, par exemple, aux États-Unis, d'abord, de Love That Bunch ?
Aucune idée.
Ah oui ? Elle n'en a pas parlé ? Ça ne s'est pas apparu ?
Moi, j'étais pas dans ce truc-là avec mes parents. Moi, j'avais trois enfants que j'étais en train d'élever. Et ma mère s'occupait beaucoup du côté édition, publication, enfin, de mes parents. J'étais pas leur secrétaire, donc je me suis pas vraiment occupée de tout ça jusqu'à maintenant. Maintenant qu'elle est plus là, je suis un peu plus dans le truc, dans le move. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je faisais ma vie de mon côté. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour la sortie de Love That Bunch aux États-Unis. Aucune idée.
Elle n'en parlait pas de
pas
recueil.
Pas moi, en tout cas, non. On parlait pas vraiment de ce genre de truc à la maison. On pouponnait avec les bébés, on faisait des repas, mais non, j'étais pas dans le. On parlait pas de business quoi avec moi du tout.
Comment ça, on vit le fait d'être représenté par sa mère dans ses bandes dessinées autobiographiques ?
Je suis habituée depuis toute petite, donc ça me fait rien. Enfin, c'est normal pour moi. Ça me fait rire avec le recul maintenant que je suis maman. Je trouve ça drôle et je trouve surtout que je suis une grosse peste. Mais c'est très drôle comment l'un me dessine et l'autre me dessine. Mais j'ai l'habitude parce que quand j'étais petite, on était trois, moi, ma mère et mon père, et on dessinait tous les trois. On se dessinait les uns les autres et c'était normal. Donc j'ai tellement grandi avec ça que j'ai même pas de recul, j'ai pas d'avis sur ça. Pour moi, c'est normal. Mais ça me fait rire quand même. Oui.
Comment s'est passée l'édition de Sacré Bunch ? Est-ce que vous aviez parlé des relectures, mais par exemple le bon à tirer, est-ce que
non, moi j'ai fait juste la traduction.
Voilà, oui, mais
je
il y aurait
du reste.
Voilà, donc c'est...
Ils m'ont envoyé la version terminée, j'ai validé quand même la traduction une fois que le lettrage était fini. Après, moi, je ne travaillais pas avec l'association, j'étais juste,
oui, bien sûr.
J'étais juste traductrice.
Mais il n'y a pas eu, alors au moment de la présentation de cette version terminée, est-ce qu'il y a eu des envies de reprendre de, ou...
Ben, moi, je
de changer des termes, ben, des traductions.
Comme j'ai dit,
des...
non. On l'a revu la traduction tellement de fois que ça s'était plié. Le lettrage était nickel. Après, j'ai eu cette idée d'ajouter des photos en noir et blanc que je trouve super. Après, malheureusement, on aurait pu ajouter ces BD qui n'avaient jamais été publiés. Mais comme j'étais sur la traduction, j'ai retrouvé dans les archives après coup. Une fois qu'il était déjà sorti. Mais peut-être qu'un jour, on fera une réédition dans laquelle on mettra les BD qui sont en archives à Sauve là-bas. Et qui n'ont jamais été publiés par personne.
Il y en a beaucoup ?
Quelques-unes. Et Pascal m'a dit « Ah zut, si on avait su, on aurait pu les mettre dedans. » Mais ouais, donc elle a quand même encore du travail qui n'a jamais été publié. Et qui sont sur les murs de la galerie.
Alors on va écouter de la musique et on va reparler de l'événement du 1er mai.
C'était ma fille Roxane qui chantait avec sa petite voix il y a 4 ans.
Il y a 4 ans.
Oui, parce qu'elle est passée à la radio Escapade hier. La voix, elle est plus grave maintenant.
Alors, 1er mai, Galerie Vidor-le-Prix à Sceaux. C'est le début de l'expo. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ?
Alors, on fête les 20 ans de la galerie, donc, qui a été ouverte en 2005 avec ma mère et Julie Catan, la gérante de la galerie, notre patronne, notre maman, à toutes, à tous. Et donc là, c'est une expo qui est centrée sur les 8 fondateurs de la galerie. Donc il y a mon père, ma mère, Rika, The Ricker, Pete Poplaski, Pierre B., Jeanne Caro et quelques autres que j'ai peut-être oubliés. Et donc... plein de BD, plein de peintures de ces artistes-là. Désolée si j'en ai oublié.
Des sculptures, parce que Pierre B.
Oui, il y a des sculptures de Pierre B. Et il y a une performance théâtrale le matin, je crois, ou l'après-midi, début d'après-midi. Ensuite, il y a une dédicace de ces jeunes dessinatrices de FFF, qui sont géniales. Et le soir, je fais un concert avec mon père, Émilie, du même groupe que vous venez d'entendre là. Donc ça va être bien rempli, et en plus il y a une brocante, puis atelier ouvert, et ça dure 3 jours cette année à Sauve, donc c'est le 1er, 2 et 3 mai. Donc la galerie sont ouvertes, Alter Livre, qu'ils ont aussi ce livre en stock, Sacré Bunch, sera ouvert. Ça va être 3 jours de fête artistique à Sauve.
Super.
Bah ouais.
Mais là, l'expo dure un peu plus longtemps.
Oui, elle dure jusqu'en novembre.
Donc avec les inédits de...
Avec les BD inédits d'Aline, voilà. Entre autres. Ouais, entre autres.
Alors, il y a le côté dans la galerie. Mm-hmm. Comment se... En fait, Robert a très vite exposé ses œuvres à la galerie. Est-ce que Aline aussi...
Oui.
J'ai, à un moment, il y avait une présentation du livre Need More Love, qui était à la galerie, en même temps que...
Je ne sais pas si Robert a exposé beaucoup d'originaux à la galerie. Il expose surtout des sérigraphies, des prints.
Oui.
Et beaucoup de BD qu'il reçoit à la maison. Quand il reçoit plein d'exemplaires, il les donne à la galerie, par exemple. Donc, il y a plein de BD qui ne sont pas spécialement trouvables en France. Donc, on a une chouette collection de BD de Robert et d'Aline. Et des trucs en espagnol, en allemand, enfin, plein de trucs un peu inédits. Et ma mère a exposé beaucoup aussi, ses tableaux, ses peintures, ses boîtes peut-être aussi. Pas trop ses BD, je crois que c'est la première fois qu'elle expose vraiment ses BD ici, à la galerie.
Ça représente quoi pour vous de faire cette étape-là, avec ses inédits, avec cet événement, ce focus?
Je suis très contente qu'il y ait un focus sur ces BD, parce qu'elles sont tellement drôles, tellement originales, authentiques, brutes. Je suis très heureuse que les yeux vont se poser sur ça, parce qu'elles étaient au fond du placard pendant 40 ans, et elles méritent vraiment d'être vues, et c'est hyper drôle. Bon, c'est en anglais, mais bon, vous allez faire un effort, les Français. Moi, je serai là pour traduire,
aussi,
si vous
voulez.
Oui, moi, je serai là pour traduire, mais ça fait plaisir qu'on voit les BD d'Aline, parce que je pense que les gens de Sceaux ont surtout vu ces tableaux ces dernières années. Donc, c'est bien qu'ils voient ces BD.
Alors,
il y a mes dessins aussi, mes peintures à moi aussi.
Enfin, justement, donc, Aline, c'était une artiste nomade, mm-hmm. finalement, qui pouvait aller dans différents modes d'expression. Mm-hmm. Elle vous a transmis ça aussi,
Sophie? Ouais, moi je suis plus en ce moment plume, encre de Chine, aquarelle. Je suis pas dans les gros pinceaux, les couleurs criardes et fluo. C'est un peu plus discret, on va dire, mes dessins. Mais je suis plus dans des dessins type illustration, vieilles photos, reprises de vieilles photos avec l'encre de Chine et l'aquarelle un peu fin.
Et puis il y a la musique aussi.
Ouais, il y a la musique aussi.
Alors, il y a eu un concert au Châtaignier où je vous avais vu avec, où je t'avais vu avec Don Julio.
Au Châtaignier? Au Vigan?
Oui, au Vigan.
Non, c'est pas moi. Je pense que vous me confondez avec Petra, non? J'ai pas joué au Châtaignier, mais j'ai joué à la salle avec lui, à Sceaux, au Hangar.
Bon, on vérifiera ça.
Ouais, on a un groupe avec Julio qui s'appelle Bird Dog. J'ai un groupe avec Émilie Chance du Bon Jaja à Sauve et Millie Dolan qui s'appelle Les Soviets. Et on a Millie's Moochers avec Robert, Millie et notre contrebassiste, notre violoniste, quand ils sont là. Voilà. J'ai trois groupes.
Vous tournez beaucoup avec ces groupes?
Pas du tout. On joue que à Sauve et aux environs parce qu'il y en a un qui... L'autre, elle a un restaurant, il y en a un qui travaille là. Moi, j'ai trois enfants, on ne peut pas faire des tournées, malheureusement. On joue localement. Bon, on est des amateurs qui se régalent.
Qu'est-ce que peut changer Sacré Bunch, le livre?
Permettre aux jeunes françaises de voir que le féminisme, ce n'est pas un truc politiquement correct et chiant, que ça peut être du gros lâchage, des histoires brutes, crues, vraie, douloureuse, trash et pas du tout correcte, du tout. Et bon, avec beaucoup d'humour, même dans les moments les plus trash, on n'est pas obligé de faire comme Aline, hein. Faut se respecter quand même. Mais ça donne une nouvelle vision du féminisme des années 60, qui est un peu poussiéreuse, on va dire. Et c'est très important, surtout en ce moment, surtout maintenant.
Est-ce que ça peut créer d'autres envies de traduire d'autres œuvres?
Oui, mais maintenant que j'ai traduit ça, je peux te dire n'importe quoi, tellement c'était dur. Donc justement, j'ai commencé à traduire les BD d'un ami à moi qui s'appelle Dave Guedin, qui est un super dessinateur de BD. Il n'est pas publié aux États-Unis ni rien, il est publié qu'en France. Et c'est un super conteur, un super dessinateur. Il a fait une BD qui s'appelle Le Moisson 44, qui parle de la Normandie, la ferme de ses grands-parents. Et j'ai traduit un petit peu quelques pages en anglais pour les envoyer aux éditeurs américains. J'aimerais bien continuer la traduction. parce que tout me paraîtra facile après avoir traduit ce dialecte phonétique yiddish juif new-yorkais intraduisible. Ça paraît d'une facilité. Je peux tout traduire maintenant.
Et est-ce que ça donne un œil particulier sur la lecture d'œuvres traduites?
Oui, complètement, complètement. Mais hier, j'étais en train de lire une BD qui a été traduite par une Française. Et je suis là, ouais, là, moi, j'aurais pas écrit ça. Ah, là, je sens vachement la personne qui est entre moi et l'artiste ou l'écrivain ou le dessinateur. Je sens le traducteur qui est au milieu, quoi. Et le traducteur doit essayer de disparaître le plus possible, quoi. De pas que sa traduction ne soit pas ressentie comme une traduction.
C'est quoi les repères, justement, pour sentir ça?
Ben, la personne que je lisais hier, la BD que je lisais hier, je vais pas citer, hein, mais je pense qu'elle a traduit trop littéralement. Elle mettait beaucoup de « ouais, trois petits points, ouais, trois petits points ». Parce qu'en anglais, c'est traduit de l'anglais « yeah, yes, ok ». Mais en français, on ne dit pas forcément. Moi, tu vois, il faut adapter. Il faut adapter pour que ce soit lisible, pour que tu n'aies pas l'impression que c'est une traduction littérale de l'anglais. Il faut que ce soit une expression, une manière de parler qui est aisée en français, qui se lit. Pas quelque chose où tu traduis mot par mot, voilà, il a marqué « yeah », je vais mettre « ouais ». Non, il faut adapter. Tu ne peux pas le traduire mot par mot, il faut adapter. Pour que ce soit quelque chose de lisible et de fluide.
Ce qui est le cas avec Sacré Bunch.
Merci, j'espère.
Ah oui.
J'espère. Moi, à chaque fois que je le relis, je dis « Ah, là, j'aurais pu faire ça, là, j'aurais pu... » Bon. Mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai eu des compliments de ma traduction, ça m'a fait plaisir.
Par qui?
Des lecteurs, des journalistes, des articles sur la BD, qui me parlaient de la qualité de ma traduction. J'étais très fier. J'étais contente. Et je suis fier pour ma mère et moi, parce que dans ses BD, elle dit « On ne va pas garder Sophie aux États-Unis, il faut qu'on la sorte de ce pays, on va l'élever en France, elle va apprendre le français. » Et 30 ans après, je suis là à traduire sa BD. Donc ça fait quand même un cercle magnifique qui se ferme. Donc j'étais très fier de pouvoir traduire sa BD, de pouvoir la représenter à Angoulême et de la représenter tout court. C'est un honneur pour moi, parce que c'est quand même la meilleure.
C'est net. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
Alors je vais rappeler les références, hein, du livre que vous avez traduit, donc Sacré Bunch d'Aline Kominski-Crumb, Bouffe, sexe, mort, douleur, romance et joie. C'est publié par l'association et qui a fait un très beau travail de maquette de reliure. Les 211. Il y a un peu plus parce qu'il y a la postface, donc on va la compter. Donc il y a 216 pages qui sont au prix de 35 euros.
Et on peut le trouver à Alter Libre et à la galerie.
Voilà.
C'est quand même génial pour un petit village.
C'est net. Sacré librairie, Alter Libre.
Ouais.
Bon, on peut dire bonjour à Giusti et à Samuele.
Ciao Giusti et Samuele.
Merci encore et donc...
Est-ce que je peux te dire juste un dernier truc? Je voudrais juste remercier mes amis Solène, Laure, Émilie qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée à Angoulême et qui ont été vraiment mon gang de filles. On était arrivées toutes les quatre là-bas. C'était des amis très proches de ma mère et donc elles m'ont soutenue tout le long de toute cette histoire. La perte d'Aline, la traduction, la représentation d'elle à Angoulême. Donc je voulais juste leur faire un petit bisou.
Super. On peut écouter un dernier morceau de... Plutôt que le générique, il n'y a pas eu le générique du début, mais il n'y aura pas le générique de fin.
Mais n'importe quel.
Allez, c'est parti.
Ouais.
Au hasard, non, ce n'est pas le titre. Merci Antoine.
De rien, deux secondes, ça charge.
Voilà. Oui, c'est
parti. Old Mother.
Ah, il n'y a pas de chanson sur celle-là, il n'y a pas de voix.
Alors, on en prend un autre. Puisqu'on a le temps de choisir.
Sailing out the ocean.
Allez, c'est la préférée de Robert, ça.
Allez, on y va.